Nous sommes au lundi 31 juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Michel Bitogbe Tomiga assure la mise en onde de cette édition. Jérôme Dakoucha est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Club de la Presse, c'est avec nos radios partenaires. C'est avec Aniro, Radio La Paix à Takbamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Club de la Presse, c'est aussi avec nos différentes plateformes numériques et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Des sujets à l'heure de l'actualité seront débattus, commentés et analysés au cours de cette émission. Et c'est avec alors nos confrères journalistes en studio avec moi et j'accueille le premier qui est là. Déjà, c'est Harry Miaou Tchanyao. Harry Miaou, bonjour.
Bonjour. À toi et bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à toutes et à tous.
Voilà, je pense que le week-end a été.
Absolument, oui. Ça va, sauf ce qui ne va pas à la Togolaise.
Voilà, ce qui ne va pas, c'est à la Togolaise. nous allons accueillir aussi Didier Assoba dans cette émission. Il serait avec nous incessamment. Il va nous rejoindre alors dans cette émission. Alors, nous commençons cette émission par ce premier sujet. Alors, à la une alors du journal Nouvelle Opinion. Je veux bien parler alors de votre journal Harry Miaou. Ce matin, c'est sécurité routière. Vous écrivez à la une alors du journal Togo Sécurité Routière, le ministre Yacc Damram prend des mesures. Alors, quelles sont ces mesures prises par le ministre alors pour la sécurité routière?
Je pense qu'il faut d'abord commencer par féliciter le ministre de la Sécurité, le général Yacc Damram, pour le travail incommensurable qu'il abat à chaque instant. Parce que c'est un membre de la grande meute, mais qui ne fait pas omerta sur les informations, qui communique, qui est tout le temps avec les journalistes pour leur faire connaître la santé au niveau de la sécurité du pays. Et c'est à cet exercice qu'il s'est donné la dernière fois en voulant que les Togolais comprennent les dégâts que les accidents ont pu apporter dans notre pays par rapport à la perte de vie de nos compatriotes. Et donc, par rapport aux accidents que la route, la circulation ou les usagers des routes ont pu apporter, le ministre a fait le constat qui est très amer. Des centaines de Togolais ont perdu la vie à partir des accidents et il faille que quelque chose soit fait. Et c'est ce que le ministre est en train de faire à travers des mesures parce qu'il a été constaté. Il a parlé des tricycles, il a parlé des engins à deux roues, surtout les motos émigrants. Il a parlé des rétroviseurs. Une moto sans rétroviseur, par exemple, n'est plus une moto parce que le rétroviseur a un rôle important qu'il joue en matière de circulation. Il a parlé des voitures. Il a parlé également de comment la DSR devrait se mettre au boulot pour traquer ou mettre la main sur les citoyens qui roulent en état d'ivresse. Et donc, il y a l'alcootest qui est là et qui permet de constater ou de détecter ces citoyens qui roulent après avoir pris de énormes quantités de boissons. Je crois que hors de nos frontières, c'est respecté par les citoyens. Par exemple, vous allez en France, vous allez à une fête, celui qui a conduit vous dit « Ah, ben moi, je ne vais pas prendre de l'alcool parce que je serai au volant. » Mais chez nous ici, que ce soit dans les enterrements, que ce soit dans les anniversaires, que ce soit même pour se donner du plaisir, nous prenons beaucoup de litres de vin, beaucoup de litres de sorabi, beaucoup de litres de nouvelles boissons qui nous sont importées du Ghana. Je connais pas trop les noms, mais je sais que il y a aujourd'hui de ces boissons que la jeunesse et tous les citoyens d'ailleurs prennent, qui excitent et qui mettent les gens en état d'ivresse et qui prennent les guidons de leurs motos, des vélos et qui sont au volant et qui roulent à tombeau ouvert. Et donc, c'est tout cela que le ministre Yacc attire notre attention à faire en sorte qu'on puisse éviter et nous préserver, parce que un pays où les gens meurent par accident tout le temps, c'est un pays qui rétrograde. Parce que quand on veut aller au développement, il faut que nous ayons à la fois la main d'œuvre Et cette main-d'œuvre-là, c'est vous et moi, c'est tous ceux qui utilisent nos routes.
Merci beaucoup, Henri Niaou. Nous sommes rejoints par Didier Assogba. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM.
Je pense que Togo Breaking News se porte très bien.
Oui, oui, par la grâce de Dieu, on continue de faire notre bonhomme de chemin. Ce n'est pas facile pour toute entreprise de médias, mais bon, voilà, on essaye de se battre, sachant que d'abord, cet engagement vient de notre passion. Et en plus de la passion, il faut du professionnalisme, donc on essaye d'allier les deux. Même si ce n'est pas ce qu'on espère pour le moment, on croit. Le juste vit par l'espoir.
Voilà. Alors, nous discutions alors d'un sujet alors de la sécurité routière avant que vous n'arriviez, et, tel que Henri Niaou l'a signalé à sa une ce matin, le ministre Yacques Damran prend des mesures. C'est vrai, il y a un certain nombre de mesures que Henri Niaou vient de citer, et aussi des infractions quand même que les usagers de la route commettent d'habitude. Mais toujours est-il qu'il y a la sensibilisation qui se fait. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que du moins la mayonnaise alors ne puisse prendre? Parce que au finish, ça continue toujours.
Bon, moi je pense que le problème de la sécurité routière et des nombreux accidents de la route que nous enregistrons chaque année est à prendre avec beaucoup plus du sérieux, ce que les autorités font déjà. Mais il faut aller où il faut imaginer d'autres mécanismes pour permettre de résoudre. Pas définitivement, parce que même dans les pays que citait tantôt Henri Niaou, il y a toujours des accidents. Mais les accidents, ça reste, comme on dit, c'est accident. Ça restait des imprévus. Mais je pense que nous pouvons prendre beaucoup de mesures pour y arriver. Mais je pense que ça ne peut pas être un travail qui sera fait. Des mesures court-termistes ne pourront pas permettre de résoudre la question donc de la sécurité routière et donc des accidents. Je pense que il faut véritablement être pragmatique et adopter des mesures plus à moyen terme. D'abord, on parle du code de la route. Combien de Togolais sur les 8 millions que nous sommes savent déjà qu'il y a un code de la route et combien en maîtrisent les contenus? Je pense que le problème commence par là. Ma foi, dans la sensibilisation et dans l'éducation civique, il va falloir qu'on insère, nous à l'école, quand on était encore plus petit à l'école, je pense qu'il y avait ECM, oui. Quelque chose comme ça.
Même il y avait la prévention routière.
La prévention routière, justement, où on enseignait un certain nombre de choses. Nous, on était au village, il n'y avait même pas de route, mais on savait déjà que, quel que soit ce que c'est, piste ou tout ça, pour traverser, il faut regarder à gauche et à droite. On nous enseignait des choses
tout
comme
à fait.
Ça. Qui était sorti en fait du code de la route. Après, des choses comme ça ont disparu de l'école. Je pense que le code de la route doit être un code, comme on peut enseigner un code, je ne sais pas, code civil, code de la famille. Il faut qu'on enseigne ça, plus, surtout que ça concerne tout le monde. Il faut qu'on commence par l'enseigner aux citoyens dès la base. Peut-être dans les écoles, je ne sais pas comment on va trouver le mécanisme, mais ma foi, il faut que tous les citoyens, avant qu'ils ne soient grands, pour monter sur un engin, il faut d'abord qu'ils maîtrisent, ils aient des notions du code de la route. En plus de cela, il faut également regarder le problème sur un autre angle. L'autre angle, c'est quoi? Au Togo, aujourd'hui, c'est prouvé et il suffit de sortir dehors là-bas, vous allez constater. On a plus de motos, que de voitures.
Oui.
Donc, à partir de ce moment-là, quelles que soient les précautions que vous prenez, vous voyez, toutes les statistiques le montrent à chaque fois que il y a la plupart des accidents, c'est les motos qui sont les plus impliquées. Les motos sont tellement impliquées dans la plupart des accidents. Et bon, rarement les voitures, ou quand on va parler des voitures, c'est généralement les voitures de transport en commun où le conducteur dort, ou voilà, il y a quelques défauts sur la voiture. Mais la plupart des accidents, c'est les motos. Donc, nous avons un pays où il y a plus de motos que de voitures. Or, les motos sont les seuls sont les engins les plus impliqués dans les accidents. Comment on travaille pour résoudre ça? Je pense que ça doit être une réflexion qu'on mène au plan national pour peut-être trouver un mécanisme assez patriote, je le dis comme ça, ou sur des périodes données, comme l'OTR le fait déjà, mais on peut encore pousser plus loin, pour permettre aux jeunes peut-être qui ont 800 000 ou qui ont 1 million, au lieu d'aller acheter une moto qui après 2-3 jours va causer un accident dans la route, qu'on peut-être aide, je ne sais pas comment pourrait arriver, les jeunes là qui aient des mécanismes avec déjà à partir de 1 million, 1 200 000, 500 000, que des gens puissent au moins, enfin qu'on réduise le nombre de motos. Donc je ne sais pas comment on va faire ça. Moi je pense que plus il y aura de voitures dans la circulation au Togo, les gens vont se respecter, le respect du code de la route sera beaucoup plus ancré dans les mémoires, parce que les conducteurs de moto, personne ne leur apprend le code de la route. Ils n'ont même pas de permis. Cette affaire de permis qu'on a voulu leur imposer, on a vu ce que ça a donné. Donc vous voyez que les seuls qui ont permis et qui ont les notions du code de la route, qui maîtrisent les règles de la circulation, pas totalement, mais au moins de façon acceptable, c'est au moins ceux qui sont à bord des voitures. Donc, comment on peut faire une sécurité routière avec peu de personnes? Je dirais un pourcentage infime des gens qui empruntent de la route. Comment on peut faire une sécurité routière avec peu de gens qui maîtrisent donc les rouages, les codes de la route et toutes les règles de la circulation? À partir de ce moment-là, je pense qu'on a beaucoup du travail à faire et donc il faut pousser. En plus, maintenant, des mesures qu'a annoncé il y a quelques jours le ministre, le général Yacht Damran, notamment l'opération Feu Rouge et toutes les autres
qui démarre aujourd'hui.
Justement, et toutes les autres opérations, ajoutées à tout ce que je viens de dire tout à l'heure, je pense que dans le moyen terme, on va parler moins d'accidents et les accidents vont peut-être être je veux dire, des surprises ou des choses qui peuvent peut-être devenir une curiosité pour les gens.
Et Arignaou, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas plutôt une prise de conscience de l'usager de la route, puisque c'est vrai, on le dit, il faut les règles, il faut observer les règles, il faut ci, il faut ça, il faut le code de la route et tout, il faut observer ce code. Mais le citoyen doit comprendre plutôt que sa vie est très importante.
Oui, je crois qu'il faut sensibiliser les gens. Parce qu'au-delà des mesures qu'on est en train de prendre, il faut aller à la sensibilisation. Et quand Didier a parlé des motos, je me suis fait l'idée que c'est une option pour les pays. Vous allez au Ghana, vous n'avez pas les motos. Vous allez en Côte d'Ivoire à côté.
Tout à fait.
Vous n'avez pas les motos. Mais l'option là est liée à quelque chose qu'on doit avoir le courage de dire.
Voilà.
C'est la souffrance accrue à un degré donné. Quand vous allez au Bénin, vous avez les motos. Vous allez au Nigeria, on n'en parle pas.
Oui, justement.
Et donc, c'est une option pour les pays que les pays ne peuvent pas aujourd'hui se décider de dire que, bon, voilà, on a décidé de mettre fin à la circulation ou bien à l'usage des motos. Maintenant, derrière les Zémidjans, il y a toujours des passagers. Moi, je suis passager derrière un Zémidjan. Quand je vois que le conducteur de la moto roule d'une façon, je dois aussi, à partir de la prise de conscience dont nous parlons, l'interpeller et lui dire, monsieur, allez un peu doucement, parce que moi, si vous n'avez pas besoin de vous, moi, j'ai intérêt à préserver ma vie. Sinon, ce ne serait pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir dire au Togo ici que, bon, voilà, on prend des mesures pour faciliter d'ailleurs l'achat de véhicules à tout le monde. Vous savez très bien que ça va être impossible dans le pays où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, par rapport aux accidents, je vous avoue que ce n'est pas seulement l'alcool qui crée des accidents. Il y a plus les soucis qui créent l'évasion et les gens font des accidents. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui n'a pas pris d'alcool, qui a des tonnes de problèmes derrière, et le stress aidant, il cogne quelqu'un sans même se rendre compte qu'il est en train de créer un accident. Donc vivement qu'on trouve plutôt les mécanismes et les paramètres pour permettre aux citoyens d'avoir quelque chose sous la main. Ces gens-là qui sont sur les Zémidjans, je vous assure, vous prenez 100 Zémidjans, vous verrez des gens qui ont la licence. Vous verrez même d'ailleurs des gens qui ont le master, qui n'ont pas encore trouvé de l'emploi. Essayez de faire le micro-trottoir, vous allez constater que la plupart des Zémidjans, c'est des nantis de diplôme. Donc, il y a tout ce problème qu'on va essayer de voir comment pouvoir le régler, parce que le ministre a reconnu que d'ailleurs, c'est les engins à deux roues qui sont plus auteurs de ces accidents-là. Mais on ne peut pas lancer la pierre à ceux qui sont sur la moto, parce que je ne crois pas qu'à la naissance, quelqu'un aurait choisi au cours primaire de dire que moi, quand je serai grand, je vais aimer aller à Zémidjan. C'est les situations qui contraignent les gens à se résoudre à conduire ces missions.
Didier, au-delà de la sensibilisation dont parlait Harry Mirou, oui, il faut aussi la sanction. Et la sanction, alors, quand il y a infraction, parce que au-delà de tout, on voit quand même que sur nos routes, cette sanction est pratiquement, ou bien n'existe pratiquement plus, et de telle enseigne que les choses sont à la va-vite.
Oui, je pense que c'est là où j'ai apprécié la fermeté du général Yark la dernière fois qu'il réagissait donc à ce sujet-là. Il faut justement, oui, qu'il y ait la sanction. Et donc, vous savez, dans ce pays, qu'à un moment donné ou sur une longue période, des gens, quand ils sont à bord de leur voiture, ne mettaient pas la ceinture de sécurité. Les motos ne mettaient pas les casques jusqu'à ce que le général Yark sorte et que il décide d'imposer justement cette mesure-là et des sanctions en plus à ceux qui n'avaient pas de casque quand ils sont en moto et ceux qui n'ont pas donc qui ne mettent pas les ceintures de sécurité quand ils sont à bord des voitures. Et aujourd'hui, c'est devenu systématique, c'est rentré pratiquement dans les habitudes. Et donc, si en plus de cela, donc les sanctions commencent par tomber, je pense que la prise de conscience va aller. Donc, quand on va allier sensibilisation, éducation à la base, à la sanction, je pense justement que déjà l'éducation à la base plus la sensibilisation, les gens sauront que si je ne fais pas, je serai sanctionné. La verbalisation donc de ces délits qu'on commet dans la circulation pourra dissuader d'éventuels candidats qui arrivent à violer le feu quand c'est rouge, qui font des dépassements n'importe comment. Les immigrants, partout il y a route, donc il faut passer par là. Donc je pense que, mais après, on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen dans la circulation. Il y a aussi ce souci-là. Donc après, on va sanctionner ici, là-bas, il n'y a pas de soldats, donc les gens vont partir. Donc moi, j'insiste sur la sensibilité, l'éducation à la base d'abord, parce que tous ceux qui auront fait le cours primaire jusqu'au collège vont maîtriser l'essentiel du code de la route. Et après, la sensibilisation, parce que des gens auront déjà quelques notions de ce qu'on de la route-là. Donc, on le leur rappelle à partir des plages horaires, je ne sais pas, des mécanismes de sensibilisation. Et après, les quelques-uns qui tombent dans les mailles, dans la circulation, les sanctionnent pour servir d'exemple aux autres. Ça pourra permettre donc de permettre aux gens de prendre conscience. Après, je reviens peut-être sur la question de la moto. Je ne dis pas qu'on interdise les motos. Je sais que on peut pas interdire les motos. Moi-même, j'y vais à moto. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le problème. Voilà, on connaît le problème. On connaît la source de nos problèmes. Comment on fait pour résoudre? Donc, on va dire que on peut pas dire qu'on interdit les motos. On va pas interdire les motos. Mais je pense que dans des pays, il y a des politiques que je qualifiais d'à peu près d'orgueilleuses, des politiques orgueilleuses, des politiques patriotes où on dit le pays veut se faire plaisir sur un moment donné. Donc à partir de ce moment-là, on peut, comme je dis, un mécanisme. On sait aujourd'hui, moi je connais des jeunes qui, avec 1,2 million, vont s'acheter des motos. On va pas faire la publicité pour des firmes ici, mais on connaît des jeunes comme ça. Mais s'il y a des mécanismes qui permettent, à partir de ce montant-là, de pouvoir ne serait-ce qu'à acquérir un petit véhicule, une petite voiture, ça fera une moto de moins dans la circulation. Et donc, on va peut-être dire que potentiellement, ça fait un engin impliqué dans un accident de circulation de moins, potentiellement. Donc, à partir de ce moment-là, si nous avons une politique comme ça, en plus de ce que Tchaniaou dit, de mettre en place des politiques de développement qui permettent aux citoyens d'avoir moins de soucis en empruntant les routes, je pense que dans le moyen terme, on aura quand même cherché à résoudre le problème dans une proportion assez importante.
On parle de sanctions, mais il faut aussi, avec cette sanction, en matière de sanctions, il faut cette rigueur au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, parce que des fois, on constate même d'ailleurs que sur le terrain, il y a un certain nombre également de ces forces de sécurité qui font un peu de laisser-aller. Et là, on préfère plutôt prendre un petit quelque chose chez la personne au lieu de donner la sanction qu'il faut.
Oui, mais je crois que pendant longtemps, nous en avons parlé ici et je sens que les forces de l'ordre et de sécurité sont en train de prendre conscience et de cette situation.
Tout à fait.
Et que la dernière fois, moi, j'ai vu des rafles, c'était la nuit et j'ai été témoin de comment des centaines d'engins ont été appréhendés, et que les gens ont tenté de négocier, ça n'a pas mordu au niveau des limousines. J'ai été témoin la dernière fois, ça doit être le vendredi nuit. J'ai vu qu'on a interpellé pas mal d'engins, et je vous avoue que ce n'est pas pour faire la publicité à ces forces de sécurité qui étaient. J'étais à pied, j'ai fait un peu le curieux. J'ai vu que des gens ont négocié, des gens ont tiré les forces de sécurité à l'écart pour leur chuchoter quelque chose dans l'oreille. Des gens ont sorti des billets d'argent pour tenter, ça n'a pas mordu. Je crois qu'à partir du moment où c'est la tête qui a donné l'orientation, les autres membres s'exécutent. Vous voyez que c'est le ministre en personne et qui a rassemblé les gens pour leur dire d'agir. Et par rapport à cela, il n'y a pas de demi-mesure. Moi, je crois que dans un temps isolé, c'était possible qu'on arrête quelqu'un par endroit et on lui dit, la personne dit, ah bon, pardon, je suis en train de faire ceci. Bon, ça passait. Mais la dernière fois, à partir de ce coup d'envoi que le ministre a donné, je crois que il n'y a pas eu de négociation et je ne crois pas qu'il y en aura.
Alors, rapidement, nous allons quitter ce sujet de sécurité routière, puisque je sais que c'est ce sujet, si on veut toujours en parler, on en parlerait, on fera même d'ailleurs toute l'émission avec ce sujet. Mais nous allons aborder un autre sujet. Alors, la semaine dernière, en fin de semaine dernière déjà, il y a ce sujet qui m'intéresse bien. Je veux bien parler alors de l'harcèlement sexuel sur les lieux, alors de professionnels, ou des journalistes, femmes, ou les femmes journalistes, alors faisait un atelier ou une rencontre, un séminaire, hein, pour discuter alors du sujet. Alors, aujourd'hui, c'est Liberté qui revient sur le sujet. Le journal Liberté revient sur le sujet, mais parle alors d'un autre secteur. Et Liberté titre à ça une ce matin, Police nationale togolaise, une affaire de harcèlement sexuel et de promotion canapé agite le corps. Alors, quand on prend ce sujet d'harcèlement sexuel, Arimérou, on doit s'inquiéter si déjà sur les lieux de travail, on doit avoir de ces actes-là qui ne sont pas propres.
Oui, bon, j'avoue que j'étais à la sortie, j'étais vendredi dernier à la sortie de nos consoeurs qui sont dans l'association des femmes professionnelles des médias. Qui ont choisi le thème sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel, donc des médias, des journalistes que nous sommes.
Tout à fait.
Et j'avoue que quand j'avais vu ce thème, j'ai tiqué. Je me suis dit, pendant 4 ans, j'ai été, ou je suis encore, président du Conseil national des patrons de presse. Il n'y a jamais eu un moment où j'ai appris qu'il y a eu une plainte d'une journaliste, d'une consoeur qui se sent harcelé dans son milieu de travail. Et donc, j'ai voulu avoir la curiosité d'aller voir ce qui se dit ou ce qui se vit. Parce que moi, je ne suis pas femme, je n'ai pas été harcelé, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, quand nous sommes allés, effectivement, les consoeurs nous ont égrené des témoignages. J'en ai suivi, on en a suivi jusqu'à 10, où on s'est rendu compte qu'il s'agit d'un phénomène réel dans nos milieux de travail. Et tout le temps, nous en parlons. Et on parle dans d'autres corps de métier, comme ce que Liberté vient d'écrire au niveau de la police. Mais également chez nous, le verre était dans le feu, nous ne le savions pas. Les consoeurs nous ont permis de savoir que ça se passe effectivement dans notre milieu professionnel. Et j'avoue que, au-delà du fait que j'ai été surpris, au-delà du fait que le phénomène soit réel, et que partout, on en parlait, que les femmes se plaignent toujours de le vivre. Il y avait des situations que nous avons eu à relever, que je voudrais ici relever. Parce que les techniciens doivent passer à ces micros pour faire comprendre à la population ou à tout le monde quand est-ce qu'on commence la cour normale et quand est-ce qu'on quitte la drague normale pour rentrer dans des faits de harcèlement. Parce que moi, je n'arrive pas à disséquer ce que les gens appellent la drague et ce que les gens vont vouloir ou pouvoir appeler harcèlement. Je n'arrive pas à comprendre ça.
Mais arrive bien où là, si vous faites la cour à une dame ou à une femme et que la femme refuse et vous insistez, et même d'ailleurs qu'il y a par après des
accouchements. Non, mais écoutez, écoutez, nous sommes en Afrique. Moi, dans ma tradition, oui. Je suis thème. Dans notre tradition, on ne drague pas une femme, elle accepte immédiatement. D'ailleurs, ce n'est pas normal. D'accord. Une femme, si les femmes nous écoutent, elles diront que ce que je dis est sincère. Jadis, nos mamans, quand on les aborde, elles disaient même, je vais réfléchir. Et dans la réflexion, ce n'est pas demain qu'elle vient dire, bon, je suis d'accord. Et donc, si je dis bien que les techniciens doivent préciser aux populations, aux communautés, où commence la drague, où est-ce qu'elle s'arrête, et quand est-ce qu'on peut dire qu'on a quitté la drague pour glisser maintenant dans le harcèlement. Parce qu'il va pas être, on va pas être là. Tout le monde va se lever un beau matin, il dit bon, je suis harcelé. Parce que quelqu'un là lui a fait la cour, et j'ai dit non, la personne persiste, et donc finalement, on se plaint. Moi, je crois que le harcèlement tel qu'il existe, puisque ce que Liberté a écrit, c'est des rapprochements dans la hiérarchie du supérieur qui dit à son subordonné, si tu n'acceptes pas, je vais faire ci. Si tu ne me cèdes pas, je ferai ceci. À partir de ce moment, je peux croire qu'il s'agit du harcèlement. Il faut pas que les gens créent une confusion. Quelqu'un est en train de draguer une dame, et elle aussi, elle se lève bien et elle dit, bon, je suis harcelé parce que nous sommes au même boulot, parce que nous faisons le même métier. C'est des gens qui s'y connaissent, qui doivent nous expliquer. Mais je ne dis pas que le phénomène n'existe pas, il existe. Et j'ai d'ailleurs félicité les sœurs. Et aujourd'hui, je profite de vos micros pour leur dire félicitations de nous avoir édifiés. Qu'on puisse se rendre compte que nous parlions toujours des autres, mais à l'intérieur, dans notre corps de métier également, il y a de ces hommes qui harcèlent et il y en a qui utilisent leur rang ou leur supériorité et pour étouffer les jeunes filles qui sortent de nos écoles et qui veulent seulement exercer le métier de journaliste.
Didier, est-ce que vous trouvez peut-être la ligne de démarcation entre la drague et l'harcèlement sexuel?
Non, je pense que moi aussi, je suis d'avis avec Rémi Yao parce que après, je ne sais pas, ceux qui nous ont amené ce mot-là, ils ont une autre culture et d'autres traditions. Je pense que ceux qui font ce combat-là, c'est généralement des Blancs, et ils ont d'autres réalités chez eux et d'autres. Moi, nous sommes sur une radio, mais je vous donne un exemple.
Oui.
De deux mois, par exemple. J'étais après une fille, amoureux d'une fille. Et avant, j'avais pas de courage. Après, le jour où j'ai eu le courage, je suis allé, elle a refusé. J'ai rebroussé le chemin, je suis parti. Donc moi, j'ai pas insisté. Des années plus tard, on se rencontre et je me suis marié, elle s'est mariée. Et après, elle dit, mais pourquoi je n'avais pas insisté? Elle me demande pourquoi je n'avais pas insisté à l'époque, que voilà, elle faisait semblant, que est-ce que moi-même je sais que les femmes, elles font semblant. Donc elle faisait semblant là.
Donc finalement, ça devient culturel.
Elle attendait que je vienne insister. Donc après, ça c'est un témoignage que moi-même j'ai vécu ça par exemple. Donc dans cette affaire-là, si j'insistais, ce serait un harcèlement ou quoi? Voilà, après il y a un problème culturel et traditionnel dans nos milieux ici. Comme il dit, en milieu thème, c'est comme ça, en milieu élevé, chez nous également, c'est pareil. Donc tu vas pas vers une fille ou une femme qui te dit sur le champ, oui, elle te donne-moi 3 jours de réflexion, donne-moi tel nombre de jours de réflexion, après je vais voir et tout. Donc ça peut prendre des jours. Donc si toi tu n'insistes pas, tu perds ta femme que tu cherches peut-être. Donc après c'est très compliqué. Mais je pense que la ligne de démarcation qu'on peut trouver, c'est quand quelqu'un utilise sa position d'autorité, sa position dominante, pour chercher forcément à avoir quelque chose de sexuel avec une femme. À partir de ce moment-là, on peut pas, cette femme, ça peut être homme, on peut parler d'harcèlement sexuel dans ce cas. C'est quand je suis DG et que, voilà, de ma position de DG, je veux peut-être abuser d'une collaboratrice, parce que si elle n'accepte pas, je vais la sauter ou je vais lui changer de position ou de poste. Voilà. Je pense que dans ce sens-là, on peut parler de harcèlement dans ce cas-là. Mais dans le cas où il dit, bon, voilà, on drague quelqu'un qui n'accepte pas et le monsieur veut continuer à tenter sa chance, les femmes, peut-être à partir de 12 heures, auront le micro, peut-être voudraient bien nous expliquer de quoi il s'agit. Mais je pense que quand quelqu'un abuse de sa position d'autorité, de sa position dominante, pour chercher à avoir des relations sexuelles avec une femme, là, on peut parler... sauf si la femme accepte, mais si la femme n'accepte pas et que la personne continue de mettre des pressions et tout ça sur la femme, on peut parler de harcèlement dans ce cas. Donc, c'est ce que moi, je pense. Mmh. Donc, dans notre milieu, la presse, moi aussi, j'avoue, je n'ai jamais eu connaissance d'un cas. Mais puisque nos consoeurs en parlent, ce sont
avons eu des témoignages.
Voilà. Donc, puisque nos consoeurs en parlent, donc,
c'est concerné.
Ça doit être une réalité. Et que donc justement, donc puisqu'elle en parle déjà, c'est tombé dans le domaine public, on continue la sensibilisation pour que dans les rédactions, dans les organes ou les entreprises de presse où il y a des femmes ou des filles, qu'elles bénéficient de nos soutiens pour que ce genre de situation n'arrive pas.
Oui, il est très important quand même que les uns et les autres, tel que Didier l'a dit maintenant, qu'on fasse plus la sensibilisation autour de la question si tant est que le harcèlement existe vraiment dans la corporation.
Oui, et moi, je crois que de tout le temps, c'est nous qui faisons la sensibilisation. On a toujours, je l'ai dit tantôt, parlé des autres, attirer l'attention des autres hommes, hein, des autres corps de métier, et sans savoir que dans notre domaine également, il y en avait. Je vous avoue que si je n'avais pas écouté les témoignages, j'allais dire que les camarades, hein, nos consoeurs, ont inventé des situations pour dire ou pour faire dire que dans notre milieu, il existe des cas de harcèlement. Mais à partir du moment où nous avons écouté et qu'elles ont affirmé que c'était du vrai, nous ne pouvons que nous appeler à une prise de conscience, à faire en sorte que nous, qui sommes appelés à donner les bonnes informations, à sensibiliser, à éduquer et à former les populations, qu'on puisse être des modèles. Parce que si nous-mêmes, nous nous jetons dans cette perversité, excusez-moi l'expression, à harceler nos consoeurs, ça veut dire que nous ne pouvons plus être ces modèles qui viendront au micro devant les écrans et qui allons écrire des choses pour dire aux populations « halte à l'harcèlement en milieu social et de travail ». Donc, je crois que nous devons continuer par travailler là-dessus et faire en sorte également que les femmes qui se plaignent de harcèlement des hommes, qu'elles aient également le courage de se plaindre de harcèlement des femmes entre elles. Parce qu'aujourd'hui, vous savez dans quoi nous sommes. Vous savez où le monde, à quel horizon le monde s'ouvre. Si les hommes harcèlent les femmes, il faut que les femmes aussi comprennent que parfois, nous aussi, on est victimes de harcèlement. Tout à fait. Il y a des femmes qui harcèlent les hommes également, mais les hommes, eux, ils font de l'omerta, ils n'en parlent pas, ils s'y plaignent pas. Et entre femmes également, j'avoue que les gens se harcèlent. J'ai connu des témoignages de certaines filles qui ont dit que d'autres femmes les harcèlent. Et donc, c'est un phénomène et l'État doit prendre les mesures idoines pour pouvoir... Si on harcèle une femme, elle se plaint et qu'il y ait des sanctions. Si une femme harcèle une femme également, il faut qu'on trouve la bonne formule pour sanctionner cette femme-là également.
Et il faut qu'on trouve la bonne formule là pour sanctionner cette femme également. Merci beaucoup à Rémi Aou et merci à Didier aussi pour ce sujet alors dont nous avons débattu. Mais nous allons maintenant aborder le plat de résistant hein, de cette émission. Et c'est Rémi Aou qui nous donne le sujet alors de résistance alors ce matin. Alors, Rémi Aou, à la une alors de votre journal ce matin, vous titrez « Coup d'État au Niger, la CEDEAO donne une semaine à la junte pour restaurer l'ordre constitutionnel ». Et là, vous comprenez que nous nous transportons alors au Niger pour parler alors du coup d'État. Déjà la semaine passée ou la semaine dernière, nous avions eu écho alors de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que Bazoum ne soit renversé alors au pouvoir et n'est plus aujourd'hui au pouvoir. Les Poutistes ont pris le pouvoir. Alors, Rémi Aou, est-ce que vous avez été surpris alors de ce fait ou de ce coup d'État au Niger?
Non, chaque fois qu'il y a coup d'État, c'est comme un accident, c'est toujours une surprise. Vous voyez un pays où il y a la sérénité, les institutions de la République fonctionnent bien, tout le monde est à son poste, et puis, subitement, on vous dit que les dons ont changé. Et donc, moi, j'étais surpris parce que je ne suis pas spécialiste des questions nigériennes, mais j'ai suivi des émissions où il y avait des gens qui annonçaient qu'ils risquent d'avoir quelque chose au Niger. Et quand c'est arrivé, au moment où j'entendais de ces critiques, de ces émissions, je ne me faisais pas la moindre idée que ce serait possible. Mais finalement, quand ça a commencé, c'était d'abord une tentative. On parlait de tentative et puis quelques moments après, on dit que le coup d'État a consommé. Bon, maintenant, le vrai du problème, c'est les positions, ça et là, que les gens essayent de prendre. Et en l'occurrence, celle de la communauté sous-régionale, la CDAO, qui donne une semaine et qui dit que si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, elle pourrait passer par la force. Et c'est là l'inquiétude. Et c'est ce que d'ailleurs nous avons développé, on s'est interrogé. On s'est dit comment cela va être possible. Parce que là, quand on est journaliste et quand on est analyste, on se dit, au niveau du Mali, qu'est-ce qui a poussé les gens à faire un coup d'État ? Au niveau du Burkina Faso, qu'est-ce qui a amené les gens à faire double coup d'État ? C'est-à-dire que Damiba a fait son coup avec les mêmes motivations. Il a motivé qu'on ne leur donne pas. Eux, militaires de leur État, on ne leur donne pas les moyens pour aller sur le terrain et combattre les djihadistes. Et lui également, on a vu qu'il amourachait un peu avec les djihadistes, il laissait faire. Et on lui a fait également un coup d'État sous le motif qu'on veut prendre les vraies responsabilités pour combattre le terrorisme. Au niveau du Niger, les gens qui ont déposé Bazoum ont été clairs. Après une interview accordée à Jeune Afrique, Bazoum a dit beaucoup de choses que peut-être les mutins n'ont pas pu desséquer ou comprendre. Donc, ils sont passés à l'acte. Et donc, là également, on a pris les responsabilités pour pouvoir trouver les moyens idoines pour combattre le djihadisme. Bon, maintenant, la CDAO, elle vient pour combattre une armée qui veut s'organiser pour combattre le djihadisme. Alors que tout le temps à ces micros, si vous me suivez, depuis qu'on parle de djihadisme, j'ai toujours dit que la CDAO ou les pays de notre espace communautaire devraient se mettre ensemble et mater les djihadistes. Parce que moi je comprends difficilement que les gens ne se soient pas organisés pour mater ceux qui traumatisent les populations et que maintenant on s'organise pour aller faire la guerre à une armée qui est régalienne par rapport à un seul pays. Donc moi je me dis, au-delà de ce qui va se passer au Niger, je n'en sais pas trop, la CDAO a fait beaucoup d'annonces. Au niveau de l'UMOA, il y a eu plusieurs sanctions. Je pense que ça doit être 10.
Tout à fait.
Contre le Niger. Et j'ai souvenance que les mêmes mesures avaient été prises avec le Mali.
Le Mali.
Et finalement, la CDAO a compris qu'on faisait plus mal à la population qu'à la junte. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer avec le Niger, mais je crois que la raison n'a qu'à prévaloir et que les uns et les autres puissent nous faire économie d'énormes pertes de vie humaine et qu'on puisse faire en sorte que le Niger reprenne. Parce que si ça ne va pas totalement au Niger, je crois que nous allons sentir un peu. Si ça ne va pas au Niger, c'est la CDAO dans son ensemble qui doit être traumatisée. J'ai entendu ce matin dire que Bazoum aurait signé une démission. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si ce fut vrai, je pense qu'on fera économie de toutes les annonces incendiaires que nous avons entendues depuis hier jusqu'à ce matin.
Didier, je posais la question alors de surprise hein, par rapport à ce coup d'État, parce que, alors, on sait que la même chose est arrivée au Mali, au Burkina Faso et en Guinée aussi. Et aujourd'hui, c'est pratiquement seul le Niger qui constituait le pays où on n'avait pas suivi ce coup d'État. Et c'est pourquoi je posais vraiment cette question alors de surprise. Est-ce que vous êtes étonné de ce que le Niger a connu finalement ce coup d'État?
Perso, je ne suis pas surpris. Personnellement, je ne suis pas surpris parce que si tu affectionnes l'actualité internationale, parce que c'est vrai, nous faisons un média purement togolais, mais nous sommes sollicités sur beaucoup d'autres derrière pour des analyses sur la situation en Afrique de l'Ouest et à l'international aussi, généralement en Afrique. Et donc, pour quelqu'un qui suit l'actualité sécuritaire, politique ou sociopolitique même au niveau du Niger, ce n'est pas tant une surprise que ça. C'est vrai que quand on n'est pas tellement, on ne regarde pas ce qui se passe au Niger, tu vas dire que, oh, avant là-bas, il n'y a rien, mais qu'est-ce qui a pu expliquer ce coup d'État? Donc, après... Depuis que Bazoum était arrivé là-bas, il n'y avait pas beaucoup de sérénité. Déjà, vous vous souvenez, sa réélection était tellement contestée. Et la veille de son investiture, il a même failli avoir un coup d'État pour qu'il ne soit jamais investi. Donc ça, les gens n'en parlent pas. La veille de son investiture, il a failli avoir un coup d'État pour que son investiture n'ait jamais lieu. Après, bon, voilà, ils ont pu maîtriser la situation par le charisme et la personnalité même de son prédécesseur, le président Issoufou, qui a pu chercher à éteindre le feu rapidement, mais les braises couvaient derrière. Donc, après, quand il est venu dans des circonstances comme ça, avec les principales formations de l'opposition qui le contestaient, et il ne devait son salut que seulement par le soutien du parti de Issoufou, donc il a présenté aux élections, et quelques éléments de l'armée. Il n'a pratiquement pas entrepris d'initiative qui permettrait d'abord de calmer les mécontents de l'armée, donc qui voulaient donc empêcher son investiture. Et également calmer la population, voilà, les opposants qui étaient, donc, qui persistaient de ce qu'il n'a jamais été élu, et que c'était l'opposition qui avait été élue, mais que les choses ont été changées pour qu'il soit imposé. Et donc, les gens le voyaient comme un président imposé. Et donc, même s'il n'y a pas, il a pris au moins des dispositifs pour empêcher les manifestations politiques là-bas, mais les manifestations dans le cœur, dans la tête des gens et tout ça, ils ne pouvaient jamais rien savoir. Jusqu'à ce que les attaques terroristes reprennent de plus belle et se multiplient pratiquement à longueur de journée au niveau du Niger, où généralement la plupart des militaires qu'on tue là-bas, c'est les terroristes viennent, les enlèvent avec des fourgonnettes, tout ça, on vend, les égorge et on envoie les images et les autres militaires voient. Au lieu de prendre des mesures pour permettre à son armée muscler les gens, remonter les morales à la troupe, les visiter dans les camps ou même des fois même au front, comme on a vu d'autres présidents faire, pour leur remonter le moral, afin qu'ils, oui, comme ici, on a vu le président togolais aller bien plusieurs fois au front là-bas,
front.
Remonter la morale des troupes. Mais Issoufou n'est jamais allé. Il n'est jamais allé. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? Mais voilà, il se contentant d'attaquer les militaires du Mali, les militaires du Burkina. C'est pour dire finalement que les terroristes sont plus huppés, sont plus forts, sont plus équipés, sont plus entraînés et sont plus forts que les armées, et que les armées ne pouvaient rien faire. Croyant qu'il est en train d'attaquer le Mali et le Burkina, ou dans une moindre mesure la Guinée, il oublie que ceux qui le gardent chez lui, ceux qui au moins assurent le minimum de sécurité et de ce qui reste comme sécurité au niveau du Niger là-bas, sont également des militaires. Et que puisque les attaques se multiplient là-bas, c'est une insulte également à son armée de dire que les terroristes sont plus entraînés. Alors, pendant ce temps, tu es un président. Si les terroristes ont plus de moyens, d'équipements que ton armée, qu'est-ce que tu fais? Il ne prend aucune initiative. voilà, peut-être comptant sur ses partenaires qui cherchent qu'il soit rétabli maintenant. Donc après, il n'y a aucune initiative, aucune action dans des zones les plus pauvres du Niger, hein, dans le désert, tout ça. Les gens sont laissés à la merci des djihadistes qui les enlèvent et qui les tuent, qui balaient les villages. Et derrière, là-bas, en haut là-bas, c'était donc l'État islamique et tout le groupe qu'il y a. Et n'oubliez pas qu'au sud également, il y a Boko Haram qui balaie le nord du Nigeria et qui va jusqu'au sud. Jusqu'aux portes de Niamey et qui tue également les populations. Donc le reste, c'est pratiquement de l'étau là-bas au niveau du Niger. Quand les gens sont militaires, ils vivent des choses comme ça. On enlève leurs collègues devant eux, on les égorge, on leur envoie les photos au minimum. On enlève les gens disparaissent. Mais vous voyez le pays, où va le pays? Pendant que des gens tentaient de faire croire que, voilà, il y a quelque temps, on a dit qu'on a arrêté un chef djihadiste, bon, comme un trophée de guerre pour dire que, ah, oui, on est en train d'aider le Niger à avoir une sécurité maximale. Ce n'était jamais le cas pour ceux qui vivent au Niger, ceux qui sont à Niamey, des gens qui sont là-bas, des contacts là-bas vous renseignent que ça n'a jamais été le cas, il n'y a jamais de sérénité. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un président qui ne fait rien, mais qui attaque tout le temps l'armée, et que lorsque son chef d'état-major général a rendu visite au président de la transition au Mali, dès son retour, il le saute pour l'envoyer comme ambassadeur dans les pays du Golfe, et il nomme quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il a eu quelques renseignements de la part de ses partenaires, et il cherchait également dernièrement à enlever le général de la garde présidentielle, ce qui donc était considéré là-bas comme la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et on a vu justement ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est une succession d'événements qui est arrivée au niveau donc justement du Niger. Au départ, je ne suis pas tellement convaincu que les gens là voulaient véritablement lui faire un coup d'État, parce que vous avez vu les heures que cela a pris avant que les gens là ne disent finalement que c'était un coup d'État, parce que eux ils étaient justement allés pour le négocier avec lui. Et lors des négociations à la base, il y avait justement le président Issoufou qui a été invité pour demander un certain nombre de choses au président Bazoum, un certain nombre de garanties, un certain nombre de... Voilà, tout ce que les militaires peuvent demander pour le meilleur fonctionnement et leur travail. Et c'est à la suite des échecs là que vous avez vu les militaires passer sur les écrans après 22 heures le mercredi, je crois, pour annoncer finalement qu'il constituait le CNSP pour prendre le pouvoir. Donc au Niger là-bas, c'est tellement d'événements à la suite et qui a fait que on est arrivé finalement à cette situation. Après la CDAO et l'UMOA, c'est des organisations finalement qu'on ne peut pas comprendre. Dans des circonstances comme ça, au lieu justement, s'il y avait des forces à envoyer là-bas, pourquoi on n'envoyait pas les forces pour aller aider les militaires nigériens à combattre les terroristes et à tuer les terroristes qui attaquent le pays? Donc, ça veut dire que nous avons au moins les moyens, des gens qui peuvent aider à combattre, mais on les utilise jamais pour les... Bon, ma foi, hein, je pense que la CDAO aurait pu quand même trouver un autre mécanisme plutôt que ce qu'elle est en train de faire, parce que là, elle continue de se discréditer. Les gens vont finalement dire que la CDAO n'existe que justement pour protéger les chefs d'État, comme on en a l'impression à ce jour, et l'UMOA, et même la CDAO elle-même et l'UMOA continuent de violer leurs principes. Tu as étudié un peu le droit communautaire de la CDAO comme moi, tu as pris les mêmes cours que moi. Donc, dans aucun test de la CDAO, il n'existe des sanctions qu'on vient d'annoncer. Donc,
tout à fait.
À partir du moment où une organisation qui se veut sérieuse viole ses propres dispositifs réglementaires et légaux, donc, cette organisation-là, je ne sais pas quel crédit les gens pourront lui apporter. Ça ne veut pas dire que nous soutenons ou nous avalisons le coup d'État qu'il y a là-bas. Ça reste un autre débat. Mais sur quel mécanisme la CDAO se base aujourd'hui pour dire qu'on ferme les frontières? Ça n'existe nulle part dans ces tests. Toutes les autres sanctions se basent sur quoi? La seule sanction que la CDAO et l'UMOA peuvent prendre, c'est de suspendre le Niger.
Tout à fait.
Et ça, c'est la seule sanction qui existe dans les tests réglementaires. D'où sont venues les autres sanctions? C'est à partir du moment-là, les gens auront l'impression que la CDAO, l'UMOA, voilà, il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles, qui leur demande ce qu'il faut faire. On en a justement l'impression.
Arrivez-vous, est-ce qu'on n'a pas l'impression que déjà avec les putschistes, les forces de l'ordre qui montent au pouvoir, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les civils ont totalement... n'ont pas su jouer le rôle hein, pour arriver surtout à lutter contre les terroristes et que les forces de l'ordre voudraient maintenant aller au front ou du moins être au pouvoir pour mieux faire cette lutte.
J'ai dit, quand on a commencé par parler de ce sujet, que demandons-nous ce qui s'est passé avec le Mali. Quels étaient les arguments que la junte malienne a avancés pour pouvoir blanchir son coup. Tout le monde connaît les arguments. C'était qu'on n'arrive pas à leur donner le nécessaire des moyens pour combattre le terrorisme. Avec le Mali, nous avons vu ce qui s'est passé, mais la CEDEAO ne devrait pas forcément courir derrière la préservation de l'ordre constitutionnel, forcément, quand on sait que c'est la population qui en pâtit. Les gens sont en train de mourir. Et je vous ai dit que par rapport au Mali, c'est elle-même qui s'est finalement rendue compte qu'on faisait plus mal aux pauvres populations qu'aux autorités. Parce qu'elles autres, elles vivent la belle vie. Elles mangent à leur faim, elles dorment dans des maisons protégées, et elles ont tout. Et voilà, on a trouvé des circonstances pour ramener la quiétude au Mali. Mais ce que j'ai entendu et que je n'ai pas vu près de la CEDEAO, c'était de s'organiser pour aider les pays du Sahel en difficulté face au djihadisme. Vous voyez qu'aujourd'hui, la CEDEAO parle d'une force. Le Nigeria dit avoir des réserves d'armée qu'on peut envoyer au Niger. Alors qu'au moment où le pays était la proie des djihadistes, on aurait aussi par solidarité communautaire dire nous allons envoyer des troupes et on va faire une opération musclée dans le Sahel qu'on va mettre tous les moyens, tous nos éléments, on va aller encercler cette zone et en finir avec les djihadistes. On ne l'a jamais fait. On a laissé tous les pays en difficulté lutter comme ils peuvent face au djihadisme. Et si au-delà, il doit y avoir des chefs d'État, qu'ils soient civils ou militaires, qui ne travailleraient pas à encourager leur propre armée, qui ne travailleraient pas à prouver aux populations que nous allons braver ces gens-là, que nous allons en finir avec eux, vaille que vaille, il va y avoir de ces situations-là. Mais regardez chez nous ici, chaque attaque, le président de la République en personne, au risque de tout, il y va. Et il dit toujours les mots qui encouragent et qui galvanisent les troupes pour que la sérénité règne au sein de l'armée. Je crois que si ce discours manque, et que si on ne prouve pas qu'on est en train de vraiment prendre des mesures pour combattre ces gens-là, parce qu'on se dit soi-même à l'abri, là, on va vivre de ces situations-là. Et je profite pour dire que la CEDEAO a encore du temps pour s'organiser et prendre des mesures pour en finir avec le djihadisme. Si elle a vraiment les moyens pour aller au Niger, ça veut dire qu'il peut avoir des moyens pour encercler ces zones-là et en finir avec ceux qui traumatisent les populations. Mais tant que cela ne sera pas fait, et que les militaires vont aller se faire tuer tous les jours, et qu'aucune mesure ne se fait prendre, comme cela se fait au Burkina, ce que les Burkinabés vivent, ce que les Nigériens vivent, et ce que le Mali vit, si rien ne se fait pour les accompagner, mais on va vivre, ma foi, à ces événements-là. Ben, j'ai donné l'exemple du Burkina, où le premier Damiba a fait son coup avec les mêmes motivations. Et quand on a vu que ce qu'il a dit, il ne le fait pas, on est revenu. Ça veut dire même qu'au Niger, si aujourd'hui, celui qui est là ne donne pas l'impression d'être en train de prendre des mesures pour aider l'armée à combattre ceux qui empêchent les populations de vaquer à leur occupation, de chercher leur quotidien, de travailler librement, ça veut dire que la même chose va se produire. Et moi, pour conclure, j'ai dit que Bazoum, je suis à sa place, même si aujourd'hui on le rétablit dans ses droits, je ne crois pas qu'il puisse travailler. Soyons à même de dire des vérités. après tout ce qui s'est passé, si on sort Bazoum, je vous assure que la CDAO va finir par aller se transformer en armée du Niger pour le garder. Parce que finalement, l'armée qui a pris cette position-là, si on va, on ramène Bazoum, président du Niger, qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça va se passer? Et qui va être sa garde? À qui va avoir confiance? Là, ça veut dire que le pays est troublé. C'est pour ça que j'ai dit que le Burkinabé, Christian Kabore, les gens lui ont proposé de venir le ramener. Il y avait des gens qui avaient dit que le coup de Damiba ne passera pas. Qu'ils vont venir comme on propose au Niger. Il a préféré préserver la vie des Burkinabés. Il a dit non, je m'en vais. Si tel est pour qu'on veut ramener le calme et permettre à mes populations de vivre décemment, je pars. Et je crois que c'est ça que j'ai appelé de façon tacite quand j'avais pris la parole en disant qu'il faut que la raison domine tout ce que les gens vont avoir comme intention derrière. Parce que là, si les gens ne prennent garde, on risque de créer une situation dans notre sous-région. Et on va casser même la CDAO parce qu'il va y avoir des gens qui vont dire, bon, nous aussi on crée notre communauté, on ne veut plus rien. Et ça peut arriver, puisque des sanctions, on propose d'aller à la force. Je crois que les gens vont rapidement trouver la bonne formule pour ramener la paix. Mais après, il faut que la CDAO s'organise pour aider les pays en difficulté à lutter efficacement contre le terrorisme. Sinon, je ne sais comment notre sous-région va devenir.
Disais, c'est vrai que l'Union africaine a donné un ultimatum de 2 semaines, la CDAO 1 semaine, l'UMOA aussi qui annonce alors des sanctions. Finalement, est-ce que ce ne sont pas des décisions pieuses et que ces institutions finalement n'auront pas alors de crédit?
Ben, vous parlez de l'Union africaine, mais parlons-en. Une organisation dont le budget à plus de 70% est financé par l'Union européenne. Vous pensez que c'est vraiment une union qui implique les Africains? Je ne crois pas. Et le président de la commission de l'Union africaine, Mahamat Faki. Mais quand les militaires ont pris le pouvoir dans son pays, le Tchad, à la mort d'Idriss Déby, vous avez vu un seul tweet de sa part ou un seul communiqué de l'Union africaine qui condamnait une prise de pouvoir illégale au Tchad? Ben jamais. Parce que justement, il y avait Emmanuel Macron derrière, qui était même venu là-bas pour l'investiture du général Mahamat Déby Itno, qui devrait remplacer son père. Et donc là, c'était un coup d'État normal, un coup d'État propre, un coup d'État donc conventionnel. Voilà, et que l'Union africaine ne pouvait pas condamner. On n'en a jamais vu des gens de la CDAO dire que ce n'était pas normal ce qui s'est passé au Tchad. Donc, du Tchad au Niger, voilà, vous voyez un Moussa Faki Mahamat qui peste et qui dit que, voilà, qui dit ce qu'il est en train de dire. C'est à la limite, les personnalités publiques, politiques que nous avons perdent leur crédibilité et selon leur prise de position d'un événement à un autre. Donc, les annonces et les ultimatums. Qui a intérêt aujourd'hui? Qui aujourd'hui va prendre son armée pour aller attaquer le Niger? Qui? C'est le Bénin ou c'est le Togo? Je ne crois pas que mon Togo ira faire ça. C'est le Nigeria. Le Nigeria n'a pas encore fini avec Boko Haram. Si le Nigeria a les moyens aujourd'hui d'aller attaquer le Niger, pourquoi le Nigeria ne mobilise pas tous ses moyens pour éradiquer Boko Haram que des gens lui ont imposé depuis des années, parce qu'ils ont eu voir son allure de développement et des gens ont peur de ce que le Nigeria va devenir demain. C'est de cela que Bola Tinubu doit s'occuper. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a un vent en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel, et que nos dirigeants doivent comprendre et accompagner plutôt que de chercher. Je pense que si j'avais été à la place de Bazoum, il n'a pas fait la lecture des choses. S'il avait fait la lecture des choses, et s'il était vraiment patriote, et qu'il aimait véritablement le Niger, il aurait pu prendre déjà des dispositions pour pour aller dans le même sens du combat rigoureux contre le terrorisme et assurer la sécurité pour les Nigériens qui doivent continuer à vivre sur leur terre. Mais là, il n'a pas fait. On lui a dit même de ne pas coopérer avec le Niger, avec le Burkina et le Mali, sachant bien que dans la zone des trois frontières là-bas, c'est là que les terroristes ont érigé leur camp.
Ils prospèrent.
Oui, ils prospèrent là-bas et ils peuvent attaquer d'une frontière à une autre. Et on lui a dit à lui, ne coopère pas avec les autres. La seule fois où vous avez vu le Mali et le Niger, le Burkina coopérer, vous avez vu le nombre de terroristes qu'on a neutralisés.
Tout à fait.
Et le nombre de matériel d'attaque qu'on a récupéré. Mais imaginez si le Niger avait fait partie donc de cette collaboration-là. Donc, qui a intérêt aujourd'hui à ce que le Niger ne s'inscrive pas, n'appuie pas les autres dans le combat sérieux contre le djihadisme? Voilà la question qu'on se pose. Donc, on voit derrière les condamnations, les réactions jusqu'au hors du continent africain. On peut à peu près imaginer, vous suivez mon regard, qui ont intérêt aujourd'hui à ce que le Niger ne soit pas un pays militairement au point à de pouvoir aider les autres à éradiquer, ne serait-ce que dans la zone des trois frontières-là jusqu'au... ça pourra nous aider également ici au niveau du Togo à neutraliser le maximum de terroristes qu'il faut et à leur récupérer les engins là, les redistribuer à nos armées pour qu'on reparte au combat contre d'éventuels candidats au terrorisme sur nos terres. Mm. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que la CEDEAO comprenne les choses dans ce sens. Après Bazoum, ça reste un épiphénomène dans le phénomène. Le phénomène du terrorisme aujourd'hui est un phénomène transnational et qui impose des réalités à chacun de nous. Et donc, si on est plutôt préoccupé par la personnalité et la personne de Bazoum plutôt que du problème du terrorisme, je pense que la CEDEAO se discrédite et n'aura plus de crédit. De la même chose pour lui ou moi, et donc vous parlez de l'Union africaine. On pourra également l'impliquer.
Mais merci beaucoup Didier. Je pense qu'il est déjà midi. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et je sais que nos auditeurs sont tellement impatients à rentrer en ligne alors pour discuter surtout de ce sujet. Puisqu'il y a déjà le téléphone qui crépite de l'autre côté, mais nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après. Nous sommes de retour dans cette émission et vous le savez que vous pouvez maintenant réagir sur l'un ou l'autre sujet alors dans le compte alors de cette émission. Mais voilà, il y a un auditeur qui rentre en ligne. Nous allons l'avoir. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Ouais, bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Que Dieu vous bénisse. Hein.
Merci.
Je salue tout le plateau, c'est l'évangéliste Senghor.
Voilà, évangéliste Senghor.
Oh. L'Afrique, mon Afrique. Vous savez, moi, je vais dire ici que le coup d'État est déjà consommé. Hein. Mm. Le coup d'État de Bazoum n'est plus le président. Bon, c'est vrai que c'est pas que je supporte ou bien je suis pour ce coup d'État une personne qui a été élue démocratiquement. Mais vous voyez, c'est le peuple qui est très important. Très, très important plutôt. Parce qu'il faut être du côté du peuple. Et non pas du côté des Occidentaux. Mais posez-vous la question, pourquoi il y a un boom au niveau des États-Unis, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la CEDEAO? Mais c'était à cause de quoi? C'est à cause de l'uranium du Niger. C'est à cause de l'uranium. Vous voyez mes frères, un président, quand tu es un président d'un peuple, il faut chercher l'intérêt de ce peuple. Vous voyez, comment est-ce qu'un président peut aller se tenir des propos négatifs, humiliant maintenant l'armée nigérienne et l'armée de la sous-région? Vous voyez, ce qu'ils ont fait au Nigeria, il faut que le président du Niger, et du Nigeria plutôt, sache que l'Afrique n'est pas l'Afrique de 1940, mais nous sommes, c'est un nouveau Afrique. Donc, là, ceux qui sont partis faire là, ils sont pilotés par la France et les États-Unis, et ça ne marchera pas. Ce matin, il y a Jakuti qui disait que lui lance un appel à Fornia Singbe de ne pas aller rentrer dans le pied de la CEDEAO, de ne pas envoyer l'armée togolaise. Non, ce n'est pas ça qui est le problème aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est un peu difficile. Prions pour cet appel. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Evangeliste Senghor, 22-21-33-114. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gado,
allez-y.
Ouais. Vous savez, il y a une brouille entre Macron et moi, président Macron et moi. Vous savez pourquoi? Bon, je ne sais pas, il faut m'expliquer entre province, région et plein pays. Moi, il paraît que le président Macron se cherche. parce que l'Afrique ou bien le Niger n'est pas une province ou bien une région de la France. Mais c'est un français quand même. Moi, je ne le comprends pas. Où est comment il s'agit, comme c'est à lui qu'on a fait un coup d'État, c'est à cause de l'uranium. Vous savez, moi, de toutes les façons, Magadou, j'apprécie bien M. Macron. Vous savez pourquoi? C'est un arriviste, il est venu accidentellement pouvoir et il n'a pas d'expérience. Tout ça, le président n'a pas plus d'expérience que ceci-là. Hein. Où est comment il s'agit, il a réveillé les Africains, il faut l'applaudir. Il va partir et puis vous allez voir la France qui va partir. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Monsieur Gado, 22-21-33-114. Allô?
Bonjour, monsieur.
Bonjour, le nom?
C'est Monsieur Aho.
Monsieur Aho.
Oui.
Allez-y, vous nous appelez de quel quartier?
Oh, je suis en déplacement.
Ok,
je
allez-y.
Je ne connais pas de quartier en tant que
Allez-y, rapidement.
Bon, pour moi, le coup d'État là n'est pas encore consommé. Quelles que soient les erreurs qu'avait commises la CDAO avant, cette fois-ci, le Nigeria ne va pas laisser ça passer. Un président qui est élu démocratiquement, même s'il n'est pas en odeur de sincérité avec les militaires, il n'a qu'à le laisser achever son mandat d'abord. Pourquoi faire ce coup d'État répétitif dans la sous-région chaque fois? Si on laisse ça encore passer, c'est fini pour la sous-région tout entier. Donc, pour moi, je soutiens la CDAO et ses partenaires-là d'aller déloger ces voyous-là. Ce sont des voyous. Le monsieur qui est le chef de la garde présidentielle qui a pris le pouvoir là, c'est on le soupçonnait depuis parce qu'il avait appris que Bazoum le limogeait. Donc, il s'est énervé, il a fait ce semblant de coup d'État là.
Merci beaucoup. 22-21-33-114. Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Le nom,
oui, c'est Karim le Taximan.
Karim le Taximan. Allez-y, Karim.
Oui, moi, ce qui me préoccupe actuellement, c'est pas un coup d'État. Hein. Ce que nous, on demande pardon, le président de la République, mais de nous diminuer le carburant qui est trop cher, le péage, ça ne va pas. Donc, on a qu'à essayer de voir, de supprimer le péage des motos, ça fait honte dans notre pays. Hein. Donc, c'est tout ce qu'on a demandé. On a qu'à dire aussi Togo-Sel aussi nous vole trop de crédit. Togo-Sel nous vole trop dans ce pays. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Karim. 22-21-33-114. Allô.
Allô, bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est Natema.
Natema, allez-y.
Oui, vous savez, ce qui se passe en Afrique, c'est la France qui est responsable. Après avoir tué le colonel Kadhafi, nous avions vu à la télé les 4x4 prenant la route venir descendre au Mali. Et c'est fini, le feu allumé. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, il faut qu'on aille à la racine. Souvent, j'ai dit ça à votre collègue David Takwira à Radio Lomé. Qui arme les djihadistes? Ils trouvent où l'argent? Où payent-ils les armes? Mais, mes frères, n'accusons personne à l'heure actuelle. Allons à la racine. La France est responsable. L'Amérique est responsable. Ça va. Ils sont en train de détruire l'Afrique. Je vous assure. Si on ne va pas à la racine, je vous assure que ce problème-là ne finira jamais. Les chefs d'État, on va dépenser beaucoup d'argent, énormément d'argent, qu'on achète les armes. Et sur le terrain, nos militaires, nos enfants meurent. Parce que ce qu'ils tiennent dans les mains, ça ne vaut rien. Ce que la France les donne comme arme, c'est plus puissant et sophistiqué. Est-ce que ce qui se passe en Afrique, là, ça peut se passer en France ou en Amérique? Vous êtes sûr? En un clin d'œil, on va rayer ça à la seconde. Ce qui se passe réellement, c'est ça, c'est la France. La France est responsable. Merci pour l'émission.
Merci beaucoup, Natiman. 22-21-33-114. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, nous vous écoutons. Le nom, c'est?
Bien, je vais chez vous.
Ça va aussi. On peut avoir.
Je salue le plateau.
Oui, voilà, le plateau vous répond.
Oui, c'est pour intervenir par rapport à l'émission.
Oui, votre nom?
Oui, c'est Monsieur Ourou.
Monsieur Ourou.
Monsieur Ourou.
Ourou, allez-y.
Oui, bon, concernant l'Afrique, je peux dire que le jeune président Traoré, il a raison. Concernant le discours qu'il a fait en Russie, et son aîné Macky Sall l'a attaqué. Voilà, au retour du sommet, dans moins de 2 jours, la CEDEAO vient de répéter la même chose. Au lieu de s'unir d'énergie pour pouvoir éradiquer le terrorisme dans la sous-région, ils sont là à s'acharner sur leur population. En voyant tout ça, est-ce que l'Afrique peut se délibérer un jour? Donc ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça veut dire que nos dirigeants ne veulent pas l'épanouissement de l'Afrique, l'évolution de l'Afrique, non plus. Servir leur population, tuer leur population pour l'intérêt des Occidentaux.
Monsieur Ourou.
Oui.
Merci beaucoup. Le message est passé. Vando 21 33 114. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour. Le nom, s'il vous plaît. C'est
Benjamin de Puyagoué.
Benjamin de Puyagoué. Benjamin, allez-y.
Oui, moi, je viens par rapport aux mesures sécuritaires que le ministre a prises. Effectivement, il faudrait que les autorités revoient les prix de la douane, surtout pour les voitures. Parce que tu arrives à trouver une voiture.
Benjamin, vous pouvez aussi un peu la voir.
Oui, oui, oui. Je dis, il faudrait que les autorités revoient le prix des voitures et surtout au niveau de la douane. Oui, parce que tu arrives à trouver une voiture, un peu moins, mais la douane fait que l'on n'arrive plus à continuer les démarches. Des fois, on se pose la question à savoir si les papiers de la douane, ils le font sortir de quel métal? De l'or ou bien du diamant, ne serait-ce qu'un papier, non? Ils pouvaient faire ça un peu moins pour faire diminuer l'accident. Je crois que ce serait la meilleure solution. Hein?
Ok, merci beaucoup, Benjamin. 22-21-33-114,
allô? Bonjour.
Oui, bonjour, Daïssi, comment vous allez?
Oui, bonjour, Assas Lawire.
Oui.
Dikodo, Ketou. Vous avez des nouvelles de Ketou? Il est au Togo ou il est ailleurs?
Oui, il est là.
J'ai pensé à lui, quoi. Ferdinand et tout le reste, quoi.
D'accord.
Bon, il faut savoir que la CEDEAO est composée de que des poutistes, hein, militaro-constitutionnels. Hein. Ils sont tous poutistes, là. Ils nous fatiguent depuis 60 ans, quoi. Hein. Qui nous fatigue. Et puis, c'est les jeunes actuels qui prennent leur chemin aussi, qui s'organisent pour braquer les républiques. Mais ça veut dire quoi? Hein? Ça nous détruit. Ça détruit le continent. Et puis, ça nous a appauvris et tout. Et eux, les jeunes là, ils ont trouvé le slogan qu'ils portent. C'est l'Occident, la France dehors. Et Wagner, son Poutine, Satan de rouiller. Et puis, voilà, ça prend. Et puis, la population acclame. Non, qu'on arrête tout ça là, c'est du gangstérisme d'État. Qu'on arrête ça, qu'on commence pas à juger les gens. Hein? Les gens n'ont qu'à purger la perpète pour arrêter ce filement, ce désordre, pour que l'Afrique se développe. Il faut arrêter tout ça là. Il faut commencer par des procès. Pour parler, je vais parler un peu du Nigeria, avec son Tinubu là.
Rapidement.
Il paraît que les banques sont vidés là-bas. Comment fait-il? Merci.
Merci beaucoup, Daïssi. 22-21-33-114, nous allons avoir le dernier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le nom, s'il vous plaît?
Le Kemki depuis ce côté.
Oui, depuis ce côté, allez-y.
Oui, je vous remercie pour l'émission. Par rapport à la sécurité routière, là.
Oui.
Franchement, il faut dire la vérité, c'est les sanctions qui manquent. Chaque fois, vous parlez de la sensibilisation de la société, on va sensibiliser jusqu'à quand? Qui aujourd'hui ne sait pas pourquoi pour rouler une moto, il faut porter un casque? fils ne sait pas qu'il a violé un feu rouge. Le week-end passé, j'étais à Lomé. Un militaire même qui a violé le feu rouge. Tout le monde s'arrête en attendant que le feu rouge, à 45 secondes, le militaire part. Et dès qu'il est parti, tout le monde a commencé par partir. Mais lui, comme ça, là, c'est quel exemple il donne? Donc, c'est ça. Les autorités même passent. Ceux qui doivent donner l'exemple passent. On ne leur fait rien. Mais comment vous voudrez que ça puisse marcher? Bien sûr, le ministre est sorti. Hein. Il a lu. Tout le monde a entendu qu'il a lu. C'est fini. On va aller maintenant garder dans le tiroir. Quand est-ce que ça va changer? Ça ne peut pas changer avec ça, là. Secondo, lorsque nous allons parler du coup d'État au niveau du Niger, mais il ne faut pas que... Moi, franchement, je ne suis pas surpris. D'abord, même là, le président lui-même, là, il était quoi? C'est un rebelle. Il faut d'abord voir le passé de la personne elle-même d'abord. Bon, peut-être ceux qui ne savent pas. Lui-même, il était quoi? C'est un business. L'Iranien, c'est du business. Donc, s'il a des contrats, des partenariats, il doit nourrir aussi les terroristes pour pouvoir gagner. Donc, n'allons pas sur ce terrain-là. C'est que la CEDEAO a déjà prouvé ce qu'elle est. Mais écoutez ce que le président Macron lui-même lui dit. Il dit que si quelqu'un est, ça dit qu'un membre français est
agressé
au pays, ça dit que la France va répondre immédiatement. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que si un président africain, il y a quelque chose en France, un président africain ose le dire, la France va s'éteindre? L'Union européenne également dit qu'elle va soutenir les sanctions de la CEDEAO directement sans attendre une seconde. Ça voudrait dire quoi? Donc, il faudrait que les Africains comprennent quoi. Il faudrait qu'ils travaillent. Ils travaillent, c'est ça ce que je dis. Ne critiquons pas pour critiquer. Il faut qu'ils travaillent. Allez se plaindre en Russie que la Russie n'a qu'à encore. Les céréales de la Russie ne peuvent pas satisfaire les pays africains. Qu'il faut que l'Ukraine aussi, on autorise l'Ukraine. Mais qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous allons mettre des enfants au monde et nous attendons que certains viennent nourrir nos enfants. Je vous remercie.
Merci beaucoup, mon cher ami. Alors, je pense qu'il est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Alors, nous revenons ici en studio. Harry Yaou, vous avez écouté les uns et les autres aussi se prononcer sur les sujets. Nous avons débattu de la prévention routière. Nous avons parlé de harcèlement sexuel en milieu professionnel. Nous avons parlé alors de coup d'État au Niger. Mais vous avez fait le constat, beaucoup de personnes sont intéressées par le sujet alors de coup d'État et ils en ont fait quand même leurs commentaires.
Oui, parce que c'est l'actualité au niveau du continent. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'Union africaine et la CEDEAO doivent comprendre que personne ne viendra bâtir l'Afrique à notre place. Ils doivent comprendre que hors de l'Afrique, personne ne voudra mieux notre bonheur que nous-mêmes. Et si l'Union africaine est consciente, aussi bien que la CEDEAO, qu'il y a une gangrène qui est en train de ronger nos populations, qui est en train de créer des ennuis à nos gouvernements, il va falloir que l'Union africaine, pour les pays qui ne sont même pas concernés par le terrorisme, pour le moment, il va falloir qu'il se ligue avec la CEDEAO, où le phénomène est vivace, pour décider d'un commun accord de ce qu'il faut faire pour combattre l'ennemi commun. Les gens qui ont intervenu beaucoup tentent de faire croire que les terroristes, c'est peut-être des béquilles de certains occidentaux. Moi, je me dis que si cela est vrai ou que si cela est faux, l'Afrique a le constat et vit la chose. Il faut que nous nous mettons ensemble pour en finir avec ce phénomène-là. Si tel qu'on veut vraiment préserver la vie de nos populations, préserver l'intérêt de l'Afrique, il va falloir qu'on ne court pas derrière des individus, mais qu'on court derrière le bien-être des populations. Parce que l'argument, je le dis encore, que les gens donnent pour faire les coups d'État, il faut leur enlever cet argument. Et pour enlever cet argument, il faut en finir avec le djihadisme. Et je crois que si la volonté est commune on peut en finir avec le terrorisme. Mais si l'Afrique refuse, peut-être dans 50 ans, où nous ne serons pas, ce serait le phénomène qui va finir le continent.
Mmh.
Parce que le continent, moi-même, j'ai dit la dernière fois ici, que quand on a commencé par parler de djihadisme, nous tous, on se plaisait à dire que oh, c'est dans le Sahel.
Mmh.
C'est dans le Sahel. Mais maintenant, à notre porte ici, tous les jours, les gens tentent. N'eût été le courage, la vigilance et l'engagement ferme d'abord du chef de l'État et de nos forces de défense et de sécurité, le Togo devrait être déjà envahi. On serait en train de nous comporter comme ce que ça dit de souffrir derrière ces gens-là, comme dans le Sahel.
Mmh.
Donc l'Afrique doit comprendre que c'est un phénomène qui la concerne et se mobiliser, aller mater ces gens-là. Une fois de bon.
Dizzy, rapidement, réaction.
Oui, je pense fondamentalement que on ne doit pas s'apitoyer sur le sort de Bazoum. En plus de ce que Arim Yahweh a dit, un auditeur a touché du doigt un problème essentiel également. Il y a quelques mois, sinon en septembre dernier, à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre par intérim d'alors du Mali avait dit quelque chose, avait laissé une phrase comme ça, mais que des gens n'avaient pas analysé. Bazoum, lui-même est un rebelle. Est-ce qu'il est Nigérien? Les Nigérians nous diront. Mais on sait qu'il faisait partie des délégations de rebelles de l'Azawad qui allaient discuter avec le Mali il y a quelques années déjà. Et il a dit lui-même, il est issu d'une tribu arabe qui vient de la Libye. Et donc, comment ça s'est fait? Il est devenu président du Niger. Et donc, justement, est-ce qu'il est en train de défendre les intérêts du Niger ou il défendait les intérêts de quelqu'un d'autre? Voilà la question que tout le monde peut se poser aujourd'hui. Mais et l'essentiel aujourd'hui, et ce pourquoi la CDO doit se battre, et lui au moins également doit se battre, c'est justement pourquoi les gens font coup d'État. Si on arrive à éradiquer le terrorisme là-bas, et que la situation normale, les populations vaquent à leurs occupations, et que tout marche bien, personne n'aura d'argument pour aller faire un coup d'État, et si quelqu'un ose justement, on pourra le mater. Mais tant que le terrorisme continue à prospérer, et je crains que les choses ne continuent dans ce sens-là, et malheureusement, ce n'est pas sur l'UOMOA qu'on doit compter, parce que l'UOMOA, c'est qui parle de l'UOMOA, pas de la France, et la CDAO est en train également de s'acoquiner avec la France, et ça devient très très dangereux, et c'est les Nigérians du Nigeria qui doivent être en train actuellement de se plaindre et de plaindre leur sort, parce que quand leur président est en train de prendre des positions comme ça, ça contrastait avec les positions d'il y a quelques mois du président qui est parti, Bouhari, qui ne voulait même pas en entendre parler des positions de la France, qui avait volé son franc, son écho à la CDAO pour en faire l'écho CFA. Et donc, justement, le Nigeria est mal parti avec un président comme Tinubu qui prend des positions pareilles.
Merci beaucoup, Didier. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Arim Yahweh, rapidement, carton de fin d'émission.
Pas de carton.
Didier,
j'ai pas carton. De carton non plus.
D'accord. Merci à vous d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et pour animer cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis aussi pour le compte de cette émission. Michel Tobiga a assuré la mise en onde. Vous allez retrouver demain, mardi, mon confrère et collègue Fousseni Saïbou pour l'autre numéro alors de l'émission Club de la Presse. Appelez-moi Pascal Ossou. Au revoir.